I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Alexandre Hautecoeur, qui est le directeur marketing de Filmo. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexis.
Donc c'est un des Alex aujourd'hui.
Oui, c'est ça, donc des Alex.
Au micro. Donc Alexandre, on est ravi de t'accueillir. Donc tu as un parcours vraiment dans l'univers du ciné et de la VOD. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es arrivé chez Filmo?
Alors je suis arrivé chez Filmo il y a une petite dizaine d'années, après avoir fait quelques années dans une des premières plateformes de vidéo à la demande qui s'appelait Vodéo TV, qui était une plateforme de vidéo à la demande spécialisée dans le documentaire. Mmh. Donc on a essuyé un peu tous les plâtres qui pouvaient exister.
D'accord. Ça c'était très tôt, je crois, c'était en
2005. Avant, moi j'avais fait un peu de télé, enfin j'avais fait 50 télé avant. Et puis j'avais envie de changer, et puis le web c'était le truc qui était un peu excitant à l'époque. Tu es jeune, fougueux, donc t'as envie de voir.
T'étais profil business à la base, toi?
Non, moi j'étais, ça s'appelait chef d'antenne à l'époque, ça veut dire responsable des émissions qui sont tournées.
Donc t'es celui qui... Ah ouais, donc t'étais vraiment parti pour la prod télé à la base.
J'étais parti sur la télé, ouais.
Pourquoi cette passion à la base? Comment ça t'était venu, le fait de tomber là-dedans?
La télé, le hasard et l'envie quand même d'aller à Paris, et puis j'ai fait un stage dans cette chaîne qui s'appelait Cuisine TV, qui était une chaîne qui a été montée par Dominique Farrugia. Ça a été monté au même moment que Comédie. Mm-hmm. Donc c'était en 2001.
Comédie.
Ouais, c'était assez drôle.
Ah, Comédie,
c'est les
drôle
mêmes équipes en fait.
On en reparle là parce que je reçois les invités au podcast. C'est vrai que Comédie, ça a tellement marqué la grosse émission. Et c'est vrai, moi je regardais, j'étais plus jeune, et c'est vrai que c'était un laboratoire incroyable quand il y avait cette grosse émission qui a révélé pas mal de talents d'ailleurs.
Exactement, ouais, les Robin des Bois ont commencé là-bas.
Cyril Hanouna qui était assistant de prod.
Ouais, exactement, qui était stagiaire au début et qui courait partout tout nu.
Bon, t'as vu des grosses
émissions
à l'époque?
Moi, j'ai vu des grosses émissions à l'époque, mais c'était vraiment exactement la même époque. Il y avait d'un côté une Comédie, les rigolos, et Cuisine TV, les cuisiniers, qui était la première chaîne de cuisine, je crois, montée en France. Donc aujourd'hui, c'est très drôle, parce que d'ailleurs, le Top Chef, je crois, est tourné dans les mêmes studios, donc je le regarde parfois avec un peu d'émotion. Bref, ça a été 5 ans assez intense. Donc là, j'écrivais des émissions et on suivait comment ça se passait jusqu'à la diffusion. Et puis, ensuite, envie de faire un peu autre chose. Donc, découvrir le web avec Vodéo. Je dois avouer que je ne savais absolument pas ce qu'était la vidéo à la demande en arrivant.
Vodéo, il était en mode early stage ou il était déjà développé?
C'était en mode start-up total, levée de fonds annuelle pour tenir. Okay. Parce qu'il fallait quand même... L'idée, c'était déjà d'expliquer aux gens qu'ils
allaient... C'était assez précurseur, comme en 2005. On était 9 ans avant l'arrivée de Netflix en France.
Exactement, ouais. C'était tout nouveau. Il a fallu tout créer, tout expliquer. Enfin, créer un site web d'un site de e-commerce, bon, c'était déjà assez facile à l'époque, mais là, il fallait pouvoir diffuser du contenu vidéo. La fibre et la DSL n'étaient pas développées comme aujourd'hui, donc il fallait s'adapter à n'importe quel type de débit, et surtout sur du documentaire et du reportage, qui étaient des contenus qui étaient disponibles gratuitement à la télévision. Je parle de la vieille télévision. Donc voilà, donc ça a été une expérience extrêmement...
T'as tiré quoi comme leçon vraiment de cette expérience Vodéo, finalement, les grands enseignements, avant de passer sur Filmo, bien sûr?
Je crois que le principal enseignement, c'est ne pas oublier que si c'est un tout petit peu compliqué pour toi, ça va l'être pour le client final. Si toi-même, tu te dis, oulala, j'ai plus de 2 clics pour payer, j'ai plus de 2 clics pour lancer un streaming, les gens vont arrêter. Donc l'idée, c'est
comment créer un parcours ergonomique et ultra fluide qui permet
le plus fluide possible, en fonction évidemment de l'air du temps et en fonction
et des bons contenus aussi. C'est le binôme forcément.
Et le bon contenu, mais les bons contenus au final, le problème c'est l'accessibilité au contenu. Des bons contenus, il y en a partout, il y en a dans le documentaire, il y en a dans le film. Mais...
Alors c'est intéressant de t'accueillir parce que on a reçu hier la DIRCOM de Netflix, donc qui est un acteur débutant de Californie dans le
j'en ai jamais entendu parler.
Dans le streaming. Et le... Mais c'est vrai que c'était intéressant de parler avec toi sur, sur la partie européenne de la mise en place des VOD et de ce business. Je sais qu'il y a eu des d'autres tentatives aussi, des Mubi. Enfin, tu me dirais un peu ton regard sur toutes les plateformes. Et donc, on arrive à Filmo. Donc là, on est en quelle année quand tu rentres
on
chez eux?
On est en 2010, je crois, 2010-2011. Donc là, après l'aventure Vodéo... Il s'avère que je rencontre le directeur Bruno Delecourt, le directeur général de Filmo, un des fondateurs de Filmo. Et voilà, il cherchait un directeur marketing. Et voilà, il s'avère que
c'est arrivé.
S'avère que c'était moi.
Et là, à ce moment-là, donc, je crois que Filmo donc, a été initié avec Wild Bunch.
Exactement, oui.
Donc Wild Bunch, qui est la société de distrib de ciné et production, et bah, derrière Irréversible, peut-être du vrai film coup de poing.
Exactement, le bleu et la couleur chaude, La vie d'Adèle.
Voilà, développé par au départ avec Vincent Maraval, Vincent Grimont, Brahim Chiwa.
Exactement.
Et qu'on salue, et avec les équipes opérationnelles aujourd'hui. Qui pilote Wild Bunch aujourd'hui, qui c'est?
Alors maintenant, c'est Sophie Jourdain, qui
Sophie
est
Jourdain.
La nouvelle directrice de Wild Bunch. Sinon, bon, les choses n'ont pas, à part ce changement-là, les choses n'ont pas vraiment évolué.
D'accord. Donc Wild Bunch, c'était une manière de tout de suite être un peu en innovation, en précurseur là-dessus, et de lancer sa plateforme.
Exactement.
Pour aller sur ce business de la distribution online.
Exactement. Enfin, la légende veut que Vincent Grimont et Bruno Delecourt en parlaient déjà quand ils étaient tous les deux à Canal. Parce que Vincent Grimont était à Studio Canal avant, je crois que si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un des fondateurs de Studio Canal.
Oui, il est dans les premiers pionniers de Studio Canal.
Donc ils ont imaginé ça autour d'un café, on l'imagine comme ça, en tout cas on le raconte comme ça.
Et à Boulogne-Billancourt.
Exactement, et puis finalement, la technique ayant mûri, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques plateformes qui se lançaient en vidéo à la demande, donc pas en SVOD mais en VOD. Il y avait déjà Canal en 2005, TF1 Vision à l'époque.
Il y a déjà Canal Play, ça avait déjà émergé.
Honnêtement, je ne me rappelle plus du nom exact.
Mais ils commençaient à brainstormer là-dessus. D'accord, ça a démarré un peu.
Ça c'est 2005-2006 pour Canal et TF1. Mais c'était vraiment du transactionnel. L'idée était dès le début de lancer une offre de SVOD, donc de vidéo à la demande par abonnement, et de proposer un certain nombre de films pour un prix fixe par mois. Et tout ça où on veut, quand on veut, sur son ordinateur en voyant.
Et donc la ligne directrice de Filmo, pour mieux la définir, donc j'imagine tous les films de catalogue de Wild Bunch devaient effectivement être distribués en online, mais il y avait aussi l'idée de sourcing d'autres projets.
Exactement, parce que ça ne suffit pas, même si le catalogue de Wild Bunch c'est un très très beau catalogue avec une vraie belle profondeur. L'idée c'est d'aller ailleurs et de proposer non pas du volume, enfin évidemment du volume, parce qu'à un moment donné il faut quand même avoir un certain nombre de films pour être attractif, mais surtout de la qualité, et aller sourcer des titres. Alors il y a des titres qui sont faciles à sourcer chez des grands ayants droit américains ou chez des grands ayants droit français, mais aussi aller chercher des films de festival chez des tout petits ayants droit pour proposer une offre la plus complète possible pour tous les curieux et tous les amoureux du cinéma.
Donc le ciné, c'est le trait distinctif, où il y a d'autres formats?
Non, on est 100% cinéma.
100% ciné, d'accord.
On est la plateforme indépendante dédiée au cinéma, 100% cinéma.
D'accord, et ça c'est vraiment unique et singulier, tu dirais, en France et en Europe?
À ma connaissance, en France, oui. Après, il y a d'autres plateformes aussi, il y a beaucoup de plateformes de SVOD en France. En Europe, alors il y a d'autres plateformes comme Mubi, qui est une plateforme plutôt européenne avec
très auteur,
extrêmement auteur, très festival. On en a d'autres. Il y en a une en Europe, en Espagne, qui s'appelle Filmin, qui est une très belle réussite, qui est assez proche de notre modèle dans le sens où ils font de la VOD et de la SVOD, tout comme nous. Et c'est vraiment, ils sont très très forts.
Il y a aussi Cédric Lapiche qui avait monté un modèle à un moment.
Ça c'est autre chose, c'est la Cinétech.
Cinétech.
Qui va, elle, plutôt donner la parole au réalisateur. Et pour le dire très simplement, enfin je vais pas pitcher la Cinétech à la place de à leur place, mais globalement c'est les watchlists des réalisateurs. Donc ils vont les réalisateurs
proposer un certain nombre. Sympa ça, les playlists. Donc allons sur Filmo. Donc Filmo quand même une belle longévité, puisque c'est toujours là après 18 ans.
Exactement.
Donc c'est quand même une boîte aujourd'hui de quoi, une vingtaine de personnes.
Exactement.
au sein de Wild Bunch.
Ouais.
Et donc une ligne de films, tu l'as dit, quand même assez variée. Juste pour savoir un peu le modèle, à jouer plus sur le côté marketing, les types de prix en termes de modèle de...
On a deux offres en SVOD, donc en vidéo à la demande par abonnement. On en a une à 6,99€ par mois qui donne accès à peu près un peu plus de 1000 films. Je crois qu'on a 1020 ce mois-ci. Et on a une offre qu'on appelle l'offre ticketing qui, pour 11,99€, te donne accès à ces 1000 films, mais également à deux vidéos à la demande, deux locations sur l'ensemble du catalogue.
Ok, sachant que tu peux aussi donc faire du on-demand et du pur VOD avec de l'achat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comment ça se répartit, tu dirais, entre l'abonnement et le pur on-demand ?
Nous, notre cœur de métier, cœur de métier, c'est de vendre de l'abonnement. Historiquement, on a ajouté la VOD parce que quand on est arrivé, quand on a créé Filmo, quand Filmo a été créé, la SVOD n'existait tout simplement pas en France. Donc il a fallu créer des contrats et la chrono des médias n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais globalement on ne pouvait pas mettre les toutes dernières nouveautés, on peut toujours pas, en SVOD. Donc il a fallu très rapidement, non seulement il fallait évangéliser pour expliquer ce que c'était que la SVOD, inciter les gens à s'abonner à une offre de X films. Donc du coup, pour les faire venir sur le site, on a aussi multiplié on a créé une offre de VOD avec des films très récent, 4 mois après la sortie.
Pour les auditeurs, redéfinis comme ça, il y a petit point pédagogie entre la SVOD et la VOD.
Alors la VOD, c'est la vidéo on demand, donc c'est tout ce qui est location et achat. Et la SVOD, c'est la subscription vidéo on demand, où là, tu dois prendre un abonnement pour accéder à ces films-là.
Ok.
Et pour faire très très simple, en VOD, les films sont disponibles en VOD 3 mois après la sortie salle, si le film a fait moins de 100 000 entrées. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué. Et en SVOD, c'est, grosse louche, c'est 17 mois après la sortie.
17 mois. Et ça s'est réduit. Donc, la côté chronologie des médias a évolué depuis 3 ans. Tu peux dire un peu en deux mots comment elle a évolué, sans faire toute la législation, mais on va dire que ça s'est raccourci dans les fenêtres.
En gros, avant, c'était 4 mois pour la VOD et le ST, et 36 mois pour la SVOD. Et ensuite, dans certains cas de figure, je précise bien dans certains cas de figure, parce que je pense qu'il faudrait faire une émission dédiée à la chronologie.
Oui, c'est vrai, ça ferait un bon thème.
C'est 3 mois pour la VOD et 17 mois pour la SVOD.
Elle existe dans tous les pays, la chronologie des médias.
En France.
C'est une exception culturelle.
Exactement. C'est-à-dire qu'en Belgique, tu ne vas pas avoir la même chronologie des médias.
Il y a plus de liberté pour sortir plus rapidement online.
Exactement.
Donc ça, c'est pour protéger évidemment l'exception culturelle et le modèle CNC, le modèle... Voilà, qui a été bien sûr défendu par la réalisatrice au Festival de Cannes.
Évidemment.
Petit sourire partagé. J'ai pas vu son film là. Tu as vu son...
Non, j'ai pas vu. L'équipe qui est partie à Cannes l'a vu et c'était leur Palme d'Or de cœur. Donc tout le monde est ravi au bureau.
D'accord, Palme d'Or de cœur.
J'avais bien aimé Victoria et Sybille. Donc je pense que j'aimerais beaucoup son nouveau film.
Ça fait deux fois que ça fait une réalisatrice française. D'ailleurs, il y a eu quand même Julia Ducournau.
Ouais, avec Titane. D'ailleurs, son premier film grave était chez Wellbunch. Qui avait eu un prix aussi à Cannes, je crois.
Donc les réales françaises, on le vend en poupe quand même. Tu crois qu'il y a un côté aussi faire un symbole un petit peu avec la féminité où on ne peut pas aller jusque-là ?
En vrai, non, parce que
c'est la qualité des films quand même.
Et nous, c'est quelque chose, c'est une ligne qu'on défend chez Filmo parce qu'on s'est rendu compte, et c'est vrai que quand tu vois le pourcentage de films réalisés par des femmes réalisés est très faible et leur accessibilité est encore moins bonne. Ça veut dire
que ça reste
quand
un
tu
vrai
regardes
problème.
Sur une plateforme, si tu t'amuses à faire des pourcentages, tu te rends compte que le nombre de films français, de films réalisés par des femmes accessibles, je ne dis pas tournés, accessibles, est extrêmement limité.
Oui, c'est moins de 10%. Et on avait reçu à ce titre Véronique Lebris qui nous avait parlé du prix Alice Guy. Et justement, elle nous a raconté toute l'histoire d'Alice Guy qui était pionnière dans le cinéma, mais il y a plus de 100 ans. Donc le sujet est un vrai sujet de société.
Totalement oublié. Voilà. Donc c'est vrai que nous, sur la plateforme, on a développé un label qui s'appelle Elle Font le Cinéma. Qui n'est pas juste un corner où on met des films réalisés par des femmes, c'est-à-dire qu'on va chercher, nous sourcer des films, des premiers films en exclusivité, qu'on a en exclusivité. On en a un notamment qui s'appelle Girl Picture, qui est un film finlandais, qui a la bonne idée de nous faire découvrir le cinéma finlandais, et aussi une réalisatrice, réalisatrice. Et ce label permet aussi de mieux identifier ces films. Et puis nous, ça nous pousse à aller chercher des films réalisés par des femmes pour compléter ce label. Donc, tu vois, c'est un cercle virtueux.
Vous pouvez mettre en avant aussi certaines playlists ou dans édito ou comment c'est organisé dans l'offre.
Alors, nous,
grandes lignes.
Filmo, y a deux éléments différenciants de Filmo. Le premier, c'est que c'est 100% cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de série. Il n'y a pas de série parce que si on faisait des séries, on le ferait... On n'aura jamais, en tout cas,
ça fait du bien de revenir au cinéma d'ailleurs. Après les binge watching, je trouve que ça fait du bien de revenir au cinéma.
On est sur le temps long, donc on n'est pas sur la même chose. Et c'est vrai que quand, je ne sais plus quel réalisateur disait ça, me dites pas que les films sont trop longs, quand je vois mes enfants binge-watcher toute une après-midi une série, a priori on peut rester 2h30, 3h en salle pour voir un film.
Et il y a Thierry Frémaux qui a dit aussi, les films de ciné, parfois, en 2h, ils racontent ce qu'une série raconte sur 20h.
Ouais, exactement, il n'y a pas de temps mort. Voilà, donc cette particularité d'être 100% cinéma, mais également d'être profondément, intrinsèquement éditorialisé. Ça veut dire que, je le disais tout à l'heure, on a 1000 films. 1000 films, ça ne veut rien dire. On ne sait pas, parce que...
Ça, c'est 1000, c'est le catalogue global sur Filmo.
Non, c'est le catalogue SVOD.
SVOD.
Et en VOD, on a 5500 films, quelque chose comme ça.
Ok, ce qui est quand même une bonne profondeur de catalogue.
Profondeur de catalogue, exactement. Oui. Et sur 1000 films, étant plutôt cinéphage, je ne peux pas regarder 1000 films.
Tu peux en citer quelques-uns. Alors, tu ne vas pas nous faire les 1000, évidemment, mais allez, 2-3 que tu as dénichés ou qui sont accessibles, qui sortent du lot.
Là, on sort une exclue demain qui s'appelle Gentle, qui est un film hongrois. On a un gros travail sur les exclusivités. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Gentle.
Qui est un film hongrois sur une bodybuildeuse. Graphiquement hyper intéressant. Et puis, un film de cinéma hongrois qu'on ne connaît pas vraiment.
Une petite pépite, comme on dit.
Exactement. qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais dire ce que j'ai vu dernièrement. Il y a Nowhere Boy, qui est un film anglais sur la jeunesse de John Lennon, qui est absolument formidable, que je recommande chaudement. On a également une très belle rétrospective de Takeshi Kitano.
Ok.
Avec des contenus éditoriaux qu'on a ajoutés.
Il y a Battle Royale et tout ça ou pas ?
Alors Battle Royale n'est pas dans cette rétrospective-là. Je ne sais plus s'il est encore dans le catalogue, mais on l'a eu, il reviendra. Non, c'est vraiment lui, en tant que Takeshi Kitano, en tant que réalisateur.
Ok.
Donc du Kids Return, du Hanabi, etc., etc. Ce qui retrace un peu ses premiers films et son évolution un petit peu, parce que c'est un type fabuleux, c'est un réalisateur qui ne regarde pas de films. Donc c'est pour ça qu'il a une vraie fraîcheur quand il réalise un film, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Enfin, c'est ce qu'il raconte, le personnage est un peu...
Il n'est pas à la Tarantino, quoi.
Exactement, voilà. il s'auto-référence, mais il ne référence pas les autres parce qu'il ne les connaît pas forcément. Et puis une dernière rétrospective, c'est Bill Plimpton, notamment, qui est un dessinateur et un réalisateur de films animés américains, totalement fou, avec... je crois qu'on a 7 ou 8 titres. Il est régulièrement lauréat de titres festival. Et c'est quelqu'un qui fait tout lui-même. Ça veut dire que je pense que pour le budget d'un Pixar, tu as 10 Plimpton.
Okay.
Mais c'est une vraie découverte. Il faut vraiment regarder ces films-là. Parce
bon, ça donne envie. En tout cas, on sent la fraîcheur et l'originalité. Exactement. Et d'aller dénicher en festival des projets un peu inédits.
Et l'idée aussi, pour terminer sur la spécificité, c'est vraiment l'éditorialisation. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre un film tout seul. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « je veux ce film », sauf si c'est un film culte, je ne sais pas, « Le choix de Sophie » ou des choses comme ça, ou un Scarface, bon voilà, le film en lui-même se suffit à lui-même. Par contre, quand on va chercher des films, on va chercher des verticales. C'est-à-dire, je parlais de Takeshi Kitano, on parle du cinéma hongrois, du cinéma roumain, du cinéma espagnol, on va essayer de proposer un listing de films qui permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on est habitué de voir.
D'accord.
Et surtout, on accompagne tout par des contenus éditoriaux. Donc, ça passe par des podcasts, ça passe par des émissions à destination des réseaux sociaux, comme on a sorti là quelques-unes. La méthode, par exemple, c'est-à-dire comment reconnaître un film de Kitano en trois mots ou en quelques secondes, tout de suite, on reconnaît le...
Donc, si on prend un peu en deux mots le business case, donc là, tu parles de tous tes films. Donc, il y a de l'achat de droits, évidemment.
Exactement.
Qui est clé.
Mmh.
Donc, ça, votre équipe de juristes qui fait toute la contractualisation. Mmh. Ça, c'est gros dans votre partie.
Alors,
quand même.
C'est la partie acquisition. Finalement, les contrats, y a plusieurs modes. Soit c'est nous qui fournissons un contrat, soit c'est les ayants droit qui fournissent le contrat.
Il y a du MG, il y a du minimum garanti.
Alors, il y a autant de cas de figure
que de films.
Et du coup, là, je ne peux pas vraiment parler
tu
des
Tu
ne
peux pas révéler toutes les coulisses. C'est un secret de sauce.
Complètement. Parce
pour les auditeurs qui connaissent, parce qu'ils ne connaissent pas tous, mais les auditeurs de l'Entertainment Lab, le minimum garanti, en général, est une espèce d'avance que fait le distributeur par rapport qui se recoupe sur les ventes futures.
Exactement. Et les modèles sont différents en fonction de situer sur de la vidéo à la demande ou de la vidéo à la demande par abonnement. Ce sont des contrats différents. Parfois... ce sont des équipes différentes également, même si c'est le même ayant droit, ça peut être des équipes différentes.
D'ailleurs, j'ai même cru comprendre que, parce qu'hier j'ai posé aussi un peu la question à Netflix, je me suis un peu emmêlé les pédales d'ailleurs, j'ai cru comprendre que même dans le cas d'un Netflix, c'était du spécifique. Parce que moi, je pensais que c'était une espèce d'achat de droit clean et qui reprenait tout l'ownership, mais elle avait l'air de dire que c'était pas si simple.
T'as autant de cas, c'est vraiment...
Ça dépend des projets en fait.
Autant de cas de figure. Parfois, c'est un catalogue entier. Parfois, c'est un film. Parfois, c'est...
Ça dépend de plein de paramètres.
Ça dépend d'énormément de paramètres.
De est-ce qu'à quel point le projet est hot, des négociations, de est-ce que les droits sont libres,
du box-office,
de est-ce qu'il y a des acteurs connus qui portent le truc. Enfin,
c'est comme un achat de droits. Enfin, c'est pas tout à fait le même métier, mais finalement, c'est très proche de quelqu'un qui est sur une chaîne de télé et qui a la programmation, qui va acheter des droits.
D'accord. Mais en tout cas, demain, je vais ouvrir, je fais une image, une société de VOD. On est d'accord qu'il faut quand même pas mal de moyens.
Il faut un petit pécule pour commencer.
Pour lancer. Après, il y a un gros sujet de marketing, puisque donc il y a tes auditeurs, tes spectateurs. Donc là, on parle de quelle base à peu près de clients spectateurs ?
Alors, on ne communique pas sur le nombre d'abonnés, mais il faut savoir que Filmo a encore une autre particularité, de par notre grand âge, c'est qu'on est distribué partout.
D'accord.
Veut dire que Filmo est disponible, ce qu'on appelle en OTT, over the top, donc en direct, depuis le web, mais également on est distribué par en IPTV, donc sur les box, donc Orange, Bouygues, SFR, Free,
okay.
J'en oublie aucun, je crois que j'en oublie aucun, et également repris chez Amazon Prime Video. Tu sais qu'Amazon Prime reprend des chaînes, dont Filmo, et on est repris aussi sur Molotov.
Ah ok, donc vous êtes super bien distribué.
Donc on est distribué partout où c'est possible. Alors,
et même Prime vous distribue, c'est pas mal.
Prime distribue, oui.
Okay.
Ça leur permettait de compléter un catalogue. Ils vont avoir
ils l'ont fait avec OCS de mémoire aussi, non ?
Exactement, oui. Ouais.
Okay.
On est sorti, je crois, à quelques semaines d'intervalle avec OCS. On est sorti au plein milieu du confinement. Et OCS est sorti quelques...
Ça a bien boosté, semaines, ça a donné une vraie exposition. C'est unique.
C'est une grosse machine de guerre, Amazon.
Comme plateforme. Hein, Et alors, ce qui se joue, donc là, tu nous as parlé effectivement tout le il y a plus de... Les abonnés, de plus en plus, sont récurrents. Tu as de plus en plus, d'abonnés réguliers que de first-timers.
Oui, exactement. En fait, on joue un petit peu sur tous les tableaux. Ça veut dire que, comme toute société qui fait de l'abonnement, que ce soit un journal en ligne ou une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, l'idée, c'est de travailler l'acquisition et la fidélisation. Sur ce qu'on peut gérer. L'acquisition en IPTV, finalement, le travail est fait par les box, parce qu'on ne peut pas communiquer auprès des utilisateurs de box. Par contre, la fidélisation, c'est tout ce qui se passe sur la boutique. Ça veut dire ergonomie la plus fluide possible, expérience client la meilleure possible, et surtout des contenus intéressants des films que tu as envie de voir, ou en tout cas des films que tu n'as pas vu, dont tu n'as jamais entendu parler, mais que tu as envie de voir. C'est ce qui a développé chez nous depuis un an et demi, chez nous, toute une partie de recherche d'exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas en capacité de produire des films comme d'autres petits acteurs américains. Mais par contre, on a cette capacité d'aller chercher des films en exclusivité.
Oui, qui sont juste chez vous et nulle part ailleurs.
Exactement.
Notamment le film hongrois que tu as mentionné.
Exactement, ou des films finlandais et même des films américains et autres.
D'accord.
C'est vrai que c'est très européen, sont ce qu'on appelle des films de festival. Et ce qui est très intéressant sur ces films-là, c'est que le pari qu'on a fait, c'est quand même d'aller chercher, c'est vrai que sur le papier, aller voir un film hongrois sur une bodybuilder, tu te dis, bon, est-ce que les gens vont nous suivre ? Mais systématiquement, nos exclusivités sont dans le top 5, pour ne pas dire le top 3, des films les plus vus du mois. Ça veut dire qu'à côté de ça, on a des grosses machines américaines, du Scarface ou des films plus récents, on a eu du Transformer dernièrement, des choses comme ça, qui forcément, mécaniquement, vont fonctionner, parce que voilà, c'est rassurant ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu vois qu'un film finlandais sur des adolescentes en Finlande, en VOST, fonctionne mieux que ce type de film, on se trompe pas de cible, et que les gens qui viennent chez nous et qui sont abonnés chez nous, nos abonnés, ne se sont pas trompés non plus.
Donc c'est des gens curieux qui dénichent, et du public qui peut être localisé aussi à l'étranger, il n'y a pas que du français.
Nous, on est disponible en France, et on a un sous-ensemble, j'aime pas le terme, mais en tout cas une offre un peu plus light en Belgique.
Okay.
Et en Suisse, donc un point BE et un point CH.
Donc Alexandre, dernière partie du podcast, moi j'avais une petite question quand même sur cet univers, forcément je te la pose, parce que ça fait plus de 10 ans que tu es là-dedans. L'univers, il a été complètement bouleversé depuis tes débuts de Filmo jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui ? C'est que la bataille fait rage, il y a beaucoup plus d'acteurs, de plateformes, de services de tous les côtés. Donc ça veut dire qu'il faut une offre et un marketing encore plus innovant.
Exactement.
C'est ça qui se joue ?
C'est exactement ça, il faut émerger. n'a pas les moyens financiers d'un Netflix et d'un Amazon. Donc, pour nous, ce ne sont même pas des concurrents. Ça veut dire qu'on va être une offre complémentaire pour tous les utilisateurs de ces abonnés, de ces services qui trouvent l'offre cinéma un peu ledge. Ce qui arrive, c'est vrai que sur Netflix, il y a beaucoup de films, mais pas forcément quand tu aimes le cinéma, quand tu es curieux.
Bon, c'est pas forcément la grande force, le ciné de Netflix.
Donc, nous, on se positionne sur cette partie-là. Et puis surtout, en termes d'identité, qu'est-ce qui fait que je vais m'abonner à Filmo plutôt qu'à une autre offre? Donc c'est l'identité qui passe à travers l'image qu'on va dégager de découvreur de talent, de découvreur d'un cinéma qui n'est pas exposé, qui n'est pas visible, avec quelques éléments rassurants évidemment, hein, tu vois, des classiques, du cinéma de patrimoine, des choses comme ça. Et c'est vraiment, nous, le positionnement, il est là, c'est, on est à la fois amoureux et ce qu'on souhaite faire, c'est partager notre passion du cinéma.
Ça, on la sent, ton côté passionné et un peu quelque part dénicher des vraies choses artistiques et qu'on peut aujourd'hui passer à côté dans cet univers de plateforme.
Il y a un tel foisonnement de production de films chaque année qu'il faut des gens comme nous qui sont capables de te guider en disant voilà, ça, nous on a aimé, regarde, ça va te plaire. Si ça te plaît pas, finalement, c'est pas grave.
C'est un peu curator à t'écouter. Vous dénichez, vous êtes les curators de films.
C'est comme ça qu'on se positionne. En plus, c'est pas juste un positionnement, c'est ce qu'on est réellement intrinsèquement.
Vous êtes tous des passionnés de cinéma chez Filmo et Wildman.
On est tous des passionnés de cinéma. Il y a des débats enflammés sur les.
Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vas encore beaucoup toi au ciné, en spectateur. T'arrives à y aller.
J'y vais assez régulièrement. Après, j'ai la chance d'être forcément abonné à Filmo.
Donc tu vas aux avant-premières et tout ça un peu.
Je fais quelques avant-premières. Bon, ça, après les avant-premières, c'est plutôt avec les enfants parce que voilà.
Oui, c'est plus difficile en organisation.
En orga, mais voilà. Et puis nous maintenant aujourd'hui sur Filmo, l'idée c'est aussi d'émerger en termes de marketing. Là pour là, ça fait un an et demi qu'on fait ça. On a considérablement augmenté le budget marketing. Enfin, en tout cas, notre présence dans les médias et en marketing.
Ton SEO, tu disais en off caméra, enfin off micro, que tu as tout refondu, votre plateforme, et que tout ça maintenant ça tournait très bien.
Exactement.
Donc ça vous amène le gros du trafic quand même, vient naturellement sur le.
Une grande partie du trafic SEO et SEM. Ensuite, on a tout ce qui est affiliation et ce sur quoi du retargeting, du remarketing, etc. etc. Enfin, des grands classiques. Là, ce qu'on travaille, et c'est assez nouveau pour nous, c'est toute la partie notoriété. À travers des campagnes de communication assez importantes pour nous, c'est-à-dire qu'on était dans le métro en début d'année, on y retourne là, on y retourne le 19 si je dis pas de bêtises.
Sur quelle sortie?
Le 22. Non, en fait, c'est sur la marque Filmo.
Sur le service,
des campagnes duo, ça s'appelle, dans le métro parisien. Donc ça, on est assez content parce que ça nous sort un petit peu de notre zone de confort et on essaie d'aller au plus près des gens à travers ce type d'opération avec des campagnes replay, de la télé segmentée, ce genre de choses-là. Mais ça, là, c'est purement auto, de la radio notamment en replay avec du Spotify et autres. À côté de ça, on développe pas mal l'événementiel avec des partenariats avec les festivals. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire connaître la marque Filmo. On est distribué partout. Donc maintenant, les gens doivent venir là.
D'accord.
Il n'y a aucun frein à l'accessibilité de
Filmo. C'est la notoriété
maintenant. C'est un des nombreux leviers qu'on doit activer, c'est la notoriété à travers ces différentes campagnes de com. Là, je vous dis, il y en a une qui commence la semaine du 19. Et l'autre, c'est l'événementiel à travers la mise en place de projections dans des lieux atypiques, ça s'appelle Filmo Projo.
En tout cas, bravo, c'est une très belle initiative. Moi, je suis très admiratif parce que vous êtes tenu sur la longueur quand même, là où d'autres n'ont pas pu perdurer ces dernières années. Donc, c'est quand même un gros travail, j'imagine, après 15-20 ans, d'être toujours là. Et de défendre cette passion, et je trouve qu'il y a besoin d'être valorisé à l'ère de toutes ces plateformes, parce qu'elle a cette singularité créative, elle est quand même importante. Je trouve que même parfois ça tend un petit peu pas à s'essouffler, mais c'est vrai que de retourner au cinéma, on le voit, c'est un vrai challenge de reproposer des offres de films qualitatifs. Je sais pas comment toi tu vois tout ça aussi. Je sais pas quels sont les films marquants que tu as vu toi récemment où tu t'es dit ah ouais, là c'était quand même du grand cinoche. Ou...
Je crois que le dernier gros choc là que j'ai eu, enfin choc, c'est Tar avec Cate Blanchett, complètement pris par le film. Tu comptes le genre de film.
Tar, c'était quoi le pitch de Cate Blanchett?
Le Tar, c'est l'histoire d'une chef d'orchestre extrêmement brillante, extrêmement douée, un peu mégalomane, mais finalement, c'est pas vraiment étonnant, et qui va voir sa vie se fissurer et son pouvoir se fissurer petit à petit C'est un film un peu sur... Enfin,
c'est un grand réel derrière Dima, c'est qui en réel on va retrouver, mais...
Je vais écorcher son nom.
J'avais lu l'article dans Première, effectivement. Il est sorti il y a combien de temps, ce film
Celui-ci, je l'ai vu en VOD, donc il est sorti il y a 4 mois.
Et t'as beaucoup aimé.
C'est un vrai...
Sacrée actrice, Cate Blanchett.
Exactement. Ça, c'est des films sur...
T'as aimé Sans filtre Tu l'as
j'ai
vu
beaucoup aimé Sans filtre, Triangle of Sadness.
Ça, c'était un choc quand même, un peu à la Parasite.
Ouais.
En plus barré,
C'est un gamin... Ruben Östlund, on avait fait on a proposé un de ses premiers films, si je dis pas de bêtises, c'était Guitare mongoloïde. C'est un gosse en fait, il aime bien.
J'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il avait un côté vraiment ludique, jubilatoire, et il se lâchait vraiment.
Il aime bien, en fait, il aime bien choquer. Là, son prochain film, il racontait son prochain film qui va être le pitch, c'est dans un avion, tous les contenus multimédia sont sur un long courrier, tous les contenus multimédia sont off, ça fonctionne pas. Et les gens vont devoir réapprendre à faire sans contenu multimédia, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien.
Pas mal.
Et il racontait une scène qui allait se tourner, une scène de 10 minutes, où une mère disait que l'enfant pouvait avoir accès à son iPad pendant 10 minutes. Il semblerait que le gamin crie pendant 10 minutes et fait un sketch.
Oui, donc il aime bien les satires de société.
C'est un gosse, il aime bien appuyer où ça fait mal et puis choquer le
monde. Non, mais il est bon. C'est un peu de folie aussi, ça fait du bien parce qu'il y en a des réals un peu comme ça, à coup de poing. Puis je trouve que même, tu vois, les Xavier Dolan et tout, ils ont pas forcément toujours... retaper fort, même si j'aime beaucoup Xavier Dolan, Mommy, c'est dur aussi pour les réals de retaper fort à chaque fois. Je sais pas ce que t'en penses.
C'est l'avantage du cinéma, encore plus du cinéma en France. Bon, Xavier Dolan n'est pas français, mais en tout cas, il est francophone, c'est d'avoir la possibilité de chaque mois de découvrir de nouveaux talents. Le système à ça de vertueux, c'est qu'il y a une vraie fraîcheur, il faut vraiment préserver ça, c'est de chaque mois découvrir de nouveaux réalisateurs, de nouveaux films qui se montent. Et puis, alors forcément, parfois il y a des films qui fonctionnent moins bien, il y en a qui fonctionnent mieux, plus ou moins de façon logique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est de proposer ce côté, évidemment, tu parlais de Mommy, mais c'était le sujet de notre première campagne dans le métro. Donc, on utilisait Mommy, donc on aime beaucoup ce film.
D'accord, vous l'aviez sorti, il était sur Filmo.
Oui, évidemment, oui. On communique sur des films qui sont disponibles chez nous. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de défendre cette diversité du cinéma qui n'est pas forcément défendue sur les plateformes américaines, mais parce qu'ils sont sur d'autres sujets.
C'est vrai. Bah écoute, en tout cas, super intéressant. Alors oui, le tout dernier. Alors ça, c'est la question que je pose usuellement aux invités. C'est tes goûts. T'as un peu commencé à répondre, mais ciné, série, musique ou BD. Voilà quelques créations que t'as envie de signaler qui ont pu te marquer de tout temps.
Alors en film, je crois que j'en ai suffisamment parlé. Bon, il y a tard dernièrement, mais une vraie découverte, les Plimpton. Je recommande ça vraiment à tout le monde. Alors, c'est du dessin animé, pas vraiment regardé avec les enfants.
C'est un peu barré, quoi.
C'est complètement barré, mais fou. Et surtout, c'est assez jubilatoire. Tu dis, le mec a tout mis, quoi.
Donc,
c'est assez sympa. En musique, j'ai découvert assez récemment Tahiti Boy, qui est un groupe français qui est vraiment très, très bien.
Tahiti Boy,
Alors, je parle de groupe, mais je me demande si c'est pas un mec tout seul. Mais bref. Et en BD, il y a un truc que j'adore et que je conseille à tout le monde. Je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus offert ces derniers temps. C'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Faris.
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
Ouais, c'est dessiné au style hobby. Faut lire l'histoire de la dessinatrice qui est complètement folle.
Okay.
Et en bouquin, je sais pas, comme tout le monde, je suis en train de lire le Nicolas Mathieu Connemara. Toute personne de ma génération, je pense qu'on est assez touché par ce qu'il écrit.
Parfait. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à l'aune de tout ce que tu as vécu pour un ou une jeune qui veut se lancer, on va dire, dans le secteur audiovisuel ou même l'univers des plateformes et de la distribution digitale.
Nous, on a la marque de la tagline de Filmo, c'est oser le cinéma. Je dirais de surtout de pas avoir peur et de se lancer. C'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur, mais au final, tu as... Le cinéma, donc la production, il y a la vente internationale, la distribution.
Plein de métiers.
Il y a énormément de métiers qui gravitent autour du cinéma. Aujourd'hui, on a une accessibilité à ces métiers beaucoup plus grande. Déjà, on sait qu'ils existent. Quand on était gosses, c'était des métiers qui soit n'existaient pas, soit on ne savait pas que ça existait. Donc, c'est de pas avoir peur de multiplier les stages et de ne pas se focaliser sur... la production qui souvent est le truc qui fait rêver de monter les marches à Cannes, etc. Oui. etc.
Mais qui est le plus dur, pas que ça, c'est qui est aussi un peu un des plus précaires.
Oui, voilà, un des plus précaires, mais il y a plein de métiers qui gravitent autour de ça et nous, pour le coup, on fait partie de ces métiers-là et on sait qu'on est, il n'y a pas une personne qui travaille chez Filmo qui n'est pas passionné de cinéma et c'est...
Le business est beaucoup structuré depuis 10 ans, tu trouves, de tout ce que tu as vécu là en 10 ans tu trouves...
Oui, avant, c'était déjà une plateforme de SVOD, c'était nous. Maintenant,
c'est devenu une vraie industrie.
Sont partis sur de la niche, sur vraiment du contenu extrêmement spécifique.
Ok. Bah, écoute, Alexandre, c'était un grand plaisir en tout cas de t'accueillir pour le podcast de l'Entertainment Lab.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup à toi.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.